Chapitre 65. Vincent écarte une planche de la palissade et se faufile derrière son frère. Il sent sa gorge se serrer. Il redoute ce qu'il va découvrir. Pour le moment, s'il se fie uniquement à ce qu'il voit autour de lui, il peut encore croire que rien n'a changé. Mais ce n'est qu'une illusion. Il le sait. Le vieil entrepôt à grains a beau être dans son état habituel, une puissante odeur de brûlé flotte déjà dans l'air. Par habitude, les deux hommes traversent l'endroit en évitant de laisser des traces derrière eux. Mais cela n'a plus d'importance aujourd'hui. Lorsqu'ils débouchent côte à côte dans le jardin, ils s'immobilisent, saisis par la même vision. Le pignon arrière de la pension est encore debout, mais c'est l'unique vestige de leur ancienne demeure. Il est noirci, réduit à sa plus simple structure, comme une carcasse rongée jusqu'à l'os. Toiture, cloisons et planchers sont effondrés ou partis en fumée. Les fenêtres ne sont plus que des rectangles béants à travers lesquels on voit le ciel d'un bleu idéal. Les oiseaux chantent. Leur joyeux pépiment a quelque chose d'incongru dans cette désolation. Sur le moment, Vincent leur envie cette capacité à accepter les choses simplement. Eux savent s'adapter aux circonstances, quelles qu'elles soient. Seul leur importe de rester fidèles à leur nature. S'il pleut, ils s'abritent et patientent. S'ils sentent un danger, ils s'éloignent. Si la tempête détruit leur nid, ils le rebâtissent. Continuez coûte que coûte, tant qu'ils en ont la force. Ce matin, ils gazouillent. Dans quelques jours, lorsque les murs auront refroidi, ils se poseront dessus, ils finiront par nicher dans les brèches. En détaillant les décombres de sa maison, Vincent se demande si un homme est capable de vivre selon ses principes. Est-ce faire preuve d'une profonde sagesse ou d'une incapacité absolue à changer les choses? La végétation est en grande partie roussie, témoignant de l'effarante température atteinte par le brasier. Pierre avance entre les herbes qui crissent, incrédule face au spectacle. Autour d'eux, tout n'est que ruine. Les deux frères ne se parlent pas, mais les regards qu'ils échangent en disent long sur leur désarroi. La porte de derrière s'est effondrée. Il n'est plus nécessaire d'en maîtriser les mécanismes pour la franchir, il suffit de l'enjamber. Pierre montre à son frère la lourde charge qui s'est abattue dans le couloir. Est-ce le feu qui a détruit le piège, ou bien a-t-il été déclenché par l'un des assassins qui cherchait à envahir la maison? Son corps est peut-être en dessous, broyé et carbonisé. Ni l'un ni l'autre n'a envie de vérifier. Vincent s'aventure dans le couloir encombré d'un enchevêtrement instable de poutres calcinées. Débris consumés, résidus d'enduit, pièces de métal déformées par la chaleur et cendres forment des amas qu'il escalade avec prudence. Le plus infime des restes témoigne de la violence de l'incendie. Les frères progressent douloureusement dans cet enfer dont certains des blés fument encore. La cuisine est désormais à ciel ouvert. Seuls les murs en dur et le gros fourneau de fonte ont résisté à la fureur des flammes. Même l'évier s'est effondré sur lui-même. Il ne subsiste rien de la table ni des chaises. Le vase dans lequel Gabriel aimait mettre des fleurs n'est plus là, pas plus que l'étagère sur laquelle elle le posait. Pierre se baisse et ramasse le fragment d'une assiette brisée. C'est peut-être celle dans laquelle il avait goûté la première pâtisserie de la jeune femme. Vincent l'attend déjà devant la cheminée. C'est pour cela qu'ils sont venus. Il dégage les pièces de bois noircies qui pourraient entraver le mouvement du mur. Fonctionnera-t-il encore? Dans quel état sera leur cave? Vincent introduit sa main dans le trou de la brique manquante. La suie recouvre tout. Les parois sont encore tièdes. Il déclenche le mécanisme. Dans un frottement plus rugueux que d'ordinaire, celui-ci produit son effet et le mur s'écarte. Il faut cependant l'aider sur la fin de sa course. Les deux hommes s'engagent dans le passage, qu'ils prennent soin de refermer derrière eux. Ils descendent l'escalier en se préparant au pire. Ils s'attendent à un choc, mais ne peuvent imaginer quelle en sera l'ampleur. Quand ils arrivent en bas, ils sont frappés de stupéfaction. Leur repère est intact. Ils n'en croient pas leurs yeux. La tragédie qui a ravagé la pension a épargné la partie souterraine. Tout est en place. La vénérable cave moyenâgeuse a parfaitement résisté, alors que le bâtiment reconstruit par-dessus n'existe plus. Rien dans l'atelier ne témoigne du drame qui s'est joué, si ce n'est la température légèrement plus élevée. Incrédule, Vincent avance au hasard, comme dans un rêve, déambulant entre les ateliers. Pierre est obligé de palper les objets pour se convaincre qu'il n'est pas perdu dans un songe. Il pose la main sur l'étau de Conrad, soulève la pyrite restée sur la table centrale, soupèse un balancier de métal qu'il n'avait pas fini d'usiner. « Tu l'as toujours dit, » murmure-t-il, « cette partie-là est la plus sûre. » Vincent avance droit vers un grand bahut dont il ouvre les portes. À l'intérieur, l'automate de l'immeuble conçu par Robert Houdin que lui a légué l'horloger. Il ôte la housse de velours qui le protège et remonte doucement la manivelle sur le côté. Le cliquetis résonne tel qu'il l'a toujours fait, régulier, rassurant. Depuis la toute première fois, Vincent apprécie ce son familier, celui de la mécanique qui remplit l'office pour lequel elle a été conçue. Chaque rouage qui tourne, chaque cliquet qui s'enclenche porte la promesse que les choses vont se dérouler comme prévu, dans le délai voulu. Un idéal de maîtrise que la vie n'autorise jamais. Pierre s'approche. Il n'a pas souvent eu l'occasion de voir fonctionner cette petite merveille, mais il sait ce qu'elle représente pour son frère. Il s'assoit par terre, comme un enfant qui s'apprête à assister à une représentation. Quand il a fini de remonter le ressort, Vincent enfonce le poussoir de mise en route et vient s'installer à côté de son cadet. La femme étend son linge, l'homme met son chapeau, le chat gambade sur le toit entre les deux cheminées. Ils n'ont pas changé. Leur vie est restée la même. L'irruption des flammes qui dansent produit ce matin un drôle d'effet sur les deux frères. Pierre y voit des réminiscences de la catastrophe qu'il a vécue. Son regard se brouille. Il est bouleversé par le drame que l'animation réveille en lui. Pour Vincent, la réaction est plus profonde. Il fixe les flammes qui s'agitent. Il voit l'attelage des pompiers qui arrivent et la grande échelle qui se déplie. Ce prodige mécanique représente beaucoup pour lui. C'est le souvenir de maître qu'il admire, un lien réel avec un passé de plus en plus lointain, la manifestation du sentiment qui l'a conduit à devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Les flammes disparaissent, l'attelage recule, le pire est passé. L'immeuble miniature ne porte aucune trace du sinistre qui vient de s'y dérouler. La femme et l'homme reprennent leurs activités comme si de rien n'était, le chat aussi. La réalité est bien différente pour Vincent et les siens. Même après que l'automate a achevé son cycle, les deux garçons restent assis en silence. Vincent se laisse peu à peu envahir par une émotion qui le déborde. Pour la première fois, la magie de l'automate n'a pas opéré. Pour la première fois, il a regardé ce petit chef-d'œuvre sans y voir autre chose qu'une brillante mécanique dénuée de sens. Il en souffre. C'est un adieu à une part de lui-même, le deuil d'une époque. Il n'a sans doute plus l'âge des illusions. Il sait trop de choses pour se contenter de ce qui ne fait qu'amuser. Il songe tout à coup au passage secret de la maison de Nicolas Flamel, à celui immergé qui a coûté la vie à un homme. Ces mécaniques-là ne sont pas de simples démonstrations. Elles représentent bien plus qu'un tour de passe-passe destiné à divertir. Vincent se lève. Avec déférence et tendresse, il replace la housse de velours sur l'automate et referme les portes du buffet. Finalement, ce petit spectacle lui aura offert une autre étincelle. En le regardant pour la dernière fois, il vient d'accepter de dire adieu à son passé pour se préparer à affronter l'avenir. Chapitre 66. En fin d'après-midi, apparaissent les premiers attelages branlants. Ils convergent vers la prairie, de plus en plus nombreux, venant de partout comme pour un rendez-vous secret. Ils arrivent par la route principale ou par les chemins de terre vallonnés qui serpentent à travers les champs, les vergers et les bois environnants. Tous se regroupent, aussi différents que les espèces animales ennemies qui s'autorisent une trêve pour se désaltérer autour du seul point d'eau d'un désert. Un point de ralliement sacré, attendu et respecté par chacun. Inclassable, indescriptible, ces drôles d'équipages affichent un même entrain à se rassembler là. Charrettes de foire et attractions roulantes se parquent au hasard. Les premiers arrivés seront les plus proches, créant une sorte de cité éphémère dont la place entourée de buvettes s'avère être l'épicentre. Hommes et femmes, souvent habillés ou dévêtus de façon extravagante, remplissent peu à peu les tables. Ils s'interpellent, se saluent et trinquent déjà. Difficile de dire s'ils sont serveurs ou clients, tant ils peuvent d'une minute à l'autre se retrouver derrière les comptoirs à trimer comme des soutiers ou assis à siroter comme des princes. Il apparaît rapidement qu'il n'y a ici ni client ni patron. Pas de roi, pas d'esclave. Chacun est un peu des deux selon le moment, de bonne grâce. Aucun spectateur, seulement des batteleurs de tout poil réunis entre eux, présentant leurs propres numéros ou racontant leurs aventures à d'autres qui feront de même à leur tour. Assis au sommet du talus, adossé à sa roulotte, Conrad observe le manège. Jamais il n'aurait imaginé qu'un tel lieu puisse exister. Lui et ses compagnons l'ont bien traversé hier soir lorsqu'ils y ont été conduits, mais ils n'étaient pas en état de se rendre compte de la particularité de l'endroit. Diseuses de bonnes aventures, jongleurs, nains et femmes à barbe échangent et rient ensemble. Tous ces phénomènes, ces animateurs de rue et ces troubadours, se mélangent aux bonimenteurs, prédicateurs et autres charlatans. Après tout, ils font un peu le même métier. Ils vivent de l'envie qu'ont les badauds de s'amuser ou de croire en échange de quelques pièces. Conrad s'attache à étudier chacun, fasciné et distrait par ce peuple de saltimbanques dont il ne soupçonnait rien. Depuis l'incendie de la pension, l'Allemand se montre étonnamment calme. Lui, toujours si prompt à donner son avis, se contente de rester assis, ne bougeant que si on l'y incite. À la pension, il était de loin le plus costaud et son statut de colosse à la voix grave était une évidence dont chacun tenait compte. Mais ici, à côté du géant qui veille depuis sa roulotte voisine, il ressemblerait presque à un enfant. Beaucoup des points de repère qui le structuraient ont été remis en cause ces derniers jours. La place centrale ne cesse de se remplir. Cette joyeuse pagaille ne s'organise qu'avec l'arrivée des premiers musiciens. Ce sont eux qui imposent le rythme du lieu. Mais contrairement à ce qui se passe dans les établissements officiels, ils ne sont pas installés sur un podium, mais répartis partout, selon leurs envies et les rencontres. Parfois, de loin, ils se répondent, échangent, soutenus par les convives qui, spontanément, reprennent en chœur les refrains populaires. Il arrive même à certains de s'arrêter de jouer pour boire une chope ou discuter, mais il y en a toujours suffisamment qui s'accordent ensemble pour que l'ambiance soit assurée. Henri émerge de sa roulotte en s'étirant. Il bâille, puis réagit aussitôt à l'animation qui s'intensifie. « Que se passe-t-il ? »
« Je n'en sais trop rien, » répond Conrad, « mais ça vaut le coup d'œil. »
Le clou s'appuie sur sa rambarde et découvre avec étonnement la surprenante population qui ne cesse de se déployer à mesure que le jour décline. On dirait les mêmes qu'hier soir, mais où étaient-ils dans la journée ?
Victor le géant se mêle à la conversation.
« Ils étaient à Paris, » explique-t-il, « en train de gagner leur pain. Certains y sont encore et arriveront plus tard. »
Le menuisier avertit Henri. « Je ne suis pas sûr que ce qui se passe dans ces parages soit un spectacle convenable pour une jeune âme. »«
Je suis plus un gamin, » rétorque le clou bravache. « Tu sais, j'ai déjà vu une fille entièrement nue. »
Conrad se tourne vers lui, curieux.
Bravo, mon garçon. Et de quand date ce miracle ?
Cet après-midi, à la rivière, derrière. Les filles s'y baignaient.
Le garçon rougit, ce qui amuse Conrad. L'animation sur la place attire à nouveau leur attention. Des centaines de petites lueurs émaillent désormais cet endroit étrange et grouillant. Chacune des lanternes détache de la pénombre un visage, une scène ou un événement de ce curieux kaléidoscope. Une femme exécute un tour de cartes devant une paire d'arlequins habillés exactement de la même façon. Deux hommes dansent, tendrement enlacés, encouragés par des femmes dont, même d'aussi loin, on peut apercevoir les dentelles. Un homme qui n'a qu'un bras a amené son cheval à table et lui commande une bière servie dans une écuelle. Victor le géant s'approche de Conrad et lui glisse. Sacré spectacle, pas vrai ? L'Allemand hoche la tête en signe d'approbation. Le gardien des ambassades confie.
Voilà des années que je suis arrivé, et je reste aussi surpris chaque fois que la nuit tombe. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, ils rappliquent tous, et le cirque recommence. On ne retrouve jamais tout à fait les mêmes. Certains ne viennent que de temps en temps, mais il y a toujours bien assez de monde pour que l'on ne s'ennuie pas.
Qui sont ces gens ?
Ceux que Paris ne tolère que pour divertir son peuple. Le jour, ils sont à chaque coin de rue, dans les squares, devant les gares ou au pied des églises. Grâce à cette bande de mécréants, les citadins réveillent leurs instincts les plus sauvages ou leurs rêves enfantins. Les bourgeois adorent leur tour et leur jettent quelques piécettes. Mais lorsque vient le soir, plus personne ne souhaite les voir traîner dans son quartier. Considérés comme de sympathiques attractions au soleil, ils deviennent des voleurs sous la lune. Sitôt la fin du jour, ils sont chassés au-delà des enceintes. Conrad reste songeur. Je ne m'étais jamais demandé ce que devenaient les camelots une fois leur étal replié. Certains trouvent un abri de fortune en ville, mais beaucoup viennent ici. La police leur fait encore plus la chasse depuis l'ouverture de l'exposition. Ces créatures marginales ne correspondent pas à l'image que la capitale veut offrir d'elle-même. Alors le soir, ils se retrouvent entre eux, s'apprennent leur tour, se confient les ficelles de métier que l'on n'apprend dans aucune école.
Pour sûr, commente Henri, c'est pas comme à l'exposition universelle, mais j'aime bien.
Ici, pas d'invention ou de machine futuriste, explique le géant. Seulement des hommes et des femmes. Pas de beaux costumes ni de manières artificielles, mais la vérité de ce que nous sommes, humains, libres et sans phare. Tout ce qui compte, c'est ce que tu sais faire et l'effet que cela produit sur les autres.
Conrad vient d'apercevoir Pierre qui revient enfin. Vincent n'est pas avec lui. Le menuisier pose la main sur le bras d'Henri, dont l'attention est plutôt concentrée sur les jeunes femmes qui dansent en lançant leurs jambes en l'air et en faisant voler leurs jupons.
Préviens Gabriel, je descends à sa rencontre.
Chapitre 67. Mon frère et moi sommes passés à la pension ce matin, enfin, ce qu'il en reste. Charles Addison cesse de classer ses notes et relève le visage.
Était-il nécessaire de vous infliger cela ?
Nous avions besoin de vérifier par nous-mêmes. Il ne reste rien des étages, mais nos ateliers dans la cave en ont réchappé.
Excellente nouvelle !
Je me le demande.
Quelle surprenante réaction ! N'en êtes-vous pas heureux ?
Peut-être aurait-il été préférable que tout disparaisse pour de bon. Nos archives, tous ces souvenirs, tout ce qui faisait notre vie d'avant, tourner la page.
Charles pose ses documents et se redresse.
Pourquoi souhaiteriez-vous cela ? N'espérez-vous pas, vous et les vôtres, reprendre un jour une vie normale ?
Une vie normale ? Si par là vous entendez une vie insouciante, j'ai bien peur qu'il ne soit trop tard, en tout cas pour moi. Mes compagnons ont peut-être une chance d'oublier. Après tout, ils ont survécu et ne savent pas tout. Mais pour ma part...
Cavell marque une pause et secoue la tête. Non, vraiment, il me paraît impensable de reprendre comme avant, comme si de rien n'était. Je vous ai rencontré, Charles,
et vous m'avez ouvert les yeux sur ce que je croyais connaître. J'ai pris conscience des véritables idéaux qui animaient Étienne Bégel et Jean-Eugène Robert Houdin. J'ai pénétré dans l'envers du décor. Je commence à entrevoir que ce que je prenais pour un don était en fait la marque d'un engagement absolu. Avec vous, j'ai découvert une réalité qui me fascine et m'attire. Ces passages secrets, ce sanctuaire enfoui. Si nous ne le trouvons pas, je sais déjà que je ne cesserai jamais de vouloir le chercher. Vous m'aviez prévenu. Une fois certains savoirs révélés, il n'est plus possible de vivre sans s'y consacrer. Qu'aurais-je à faire de plus important? Si nous le localisons, qui sait ce qu'il contiendra? Vous le voyez, quoi qu'il advienne, retourner à ma vie précédente ne me semble pas une option. Addison croise les bras en écoutant son cadet. De toute façon, ajoute celui-ci, ceux qui veulent nous éliminer ne nous laisseront jamais tranquilles. Pourquoi le feraient-ils? Je n'ai pas de réponse simple à vous offrir. Sans doute disposaient-ils d'observateurs hier soir, pendant l'incendie. Ils n'auront pas manqué de repérer Conrad et Eustasio et de constater qu'ils sont bien vivants. Nous n'avons même plus cet atout dans notre manche. Les vôtres sont à l'abri dans ce camp de saltimbanques, je vous l'assure. Personne n'aura l'idée d'aller les chercher là-bas. Et quand bien même, une armée ne suffirait pas à forcer cette communauté. Ils n'y séjourneront pas indéfiniment. Nous en avons déjà parlé, Charles. Mon seul souhait est de leur offrir une vie heureuse. Ce sont des hommes bien. Ils la méritent, même si cela risque de me priver d'eux. En prononçant cette dernière phrase, la voix de Vincent s'est faite plus grave. Addison devine tout ce que traduit cette inflexion. Il prend soin de choisir ses mots avant de formuler sa réponse. Ces derniers jours n'ont pas été faciles. Vous avez été confronté à tant d'événements déstabilisants. Vous êtes épuisé. N'importe qui le serait. Laissez-vous le temps. Vous n'êtes pas seul, Vincent. Nous nous connaissons désormais un peu mieux, suffisamment pour que vous sachiez que vous pouvez compter sur moi. J'apprécie, Charles. Merci beaucoup. Addison consulte sa montre et ajoute. D'autant que nous avons encore quelques cartes à jouer. Voulez-vous venir avec moi? Je dois aller réinterroger notre prisonnier. J'ai le sentiment qu'il n'a pas tout dit. Puisqu'il semble si sensible à la magie, je me suis dit que les tours de Jean-Eugène pouvaient encore nous être utiles.